affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Recevoir l'historien Georges-Henri Soutou de l'Académie des sciences morales et politiques pour évoquer la perception de la Première Guerre mondiale de 1918 à nos jours. Rappelons donc qu'en cette première année commémorative de la Grande Guerre, l'Institut a souhaité mettre à la disposition du plus grand nombre certains de ses fonds et collections qui témoignent donc de la vie de l'institution et de ses membres durant le premier conflit mondial. La rentrée de l'Institut s'est également faite sur le thème de la Grande Guerre, sur le thème de 1914, et Georges-Henri Soutou a été le maître d'œuvre de l'ensemble de ces événements. Alors, Monsieur Soutou, donc, avant d'aborder la question de l'historiographie de la Grande Guerre proprement dite, pouvez-vous nous dire quelques mots de ces commémorations de l'Institut ?
Très bien. Alors, en dehors de la rentrée solennelle que vous avez évoquée, où des délégués de chacune des cinq académies ont évoqué chacun à sa façon la guerre de 14, en soulignant son importance pour l'histoire de non seulement de la France, mais du monde, pour l'ensemble du XXe siècle. C'était vraiment une vision à longue vue, à longue portée de la guerre de 14. L'Institut a organisé toute une série de manifestations, soit sous la forme de volumes en cours de publication ou déjà réalisé, soit sous la forme d'expositions physiques, soit sous la forme d'expositions virtuelles. Le tout étant d'ailleurs repris dans cette exposition virtuelle que l'on peut très commodément sur le site en ligne de l'Institut retrouver et suivre. En effet, l'Institut dispose d'une masse énorme d'archives, de documents, de photos, de manuscrits relatant concernant cette période. Pour résumer les manifestations essentielles, d'abord les deux hôpitaux auxiliaires. Les hôpitaux auxiliaires étaient destinés à aider, à compléter les hôpitaux militaires débordés, n'est-ce pas, pendant la Grande Guerre. L'Institut en avait organisé deux, avec l'aide, bien entendu, de bénévoles. Les infirmiers étaient pour la plupart, ou infirmières étaient pour la plupart bénévoles. Les médecins qui venaient étaient également pour ça bénévoles. Bon, l'un de ces hôpitaux auxiliaires était organisé au château de Chantilly, qui appartient à l'Institut, et l'autre à la fondation Thiers, place Saint-Georges à Paris, qui appartient également à l'Institut. Alors, il se trouve que pour l'hôpital auxiliaire de Chantilly, on a retrouvé une collection admirable de photos réalisées à l'époque par le conservateur du musée de Chantilly, que monsieur et madame Vicaire ont bien voulu mettre à la disposition de cette exposition virtuelle.
Parlons de photos personnel, privé, pas de photo officielle.
Privé, tout à fait, mais c'est très intéressant, parce qu'on voit les blessés, les infirmières, les blessés entre eux, disons, dans les moments de détente dans le parc, au soleil, pas sur leur lit de douleur, évidemment, bon, c'est bien. Mais enfin, c'est tout à fait intéressant et touchant. Et pour l'hôpital de la Fondation de Donne-Thiers, on a retrouvé les archives complètes. Intact depuis la fin de la guerre, tout y était, y compris les listes des blessés soignés, les malades aussi soignés, les fiches médicales, les circulaires administratives, circulaires d'autorité militaire qui gardaient tout ça sous son autorité, les achats de tout type, les menus des hospitalisés, y compris le 11 novembre 1918, la commande qui est faite ce jour-là des bouteilles de champagne, n'est-ce pas, pour célébrer quand même l'armistice, les correspondances, les visites des familles, les recherches tragiques des disparus, familles demandant à chaque hôpital si vous avez une trace. Bon. Donc là, il y a une exposition physique à la Fondation Thiers, mais vous en retrouvez les éléments en ligne sur le site. C'est tout à fait passionnant, chaque document étant commenté, disons, sous la forme d'un cartel, comme dans un musée. C'est vraiment une exposition.
C'est le principe de l'exposition
numérique. Tout à fait.
Donc les auditeurs de Canal Academy peuvent y aller sans crainte. Ils seront pilotés de bout en bout.
Ah oui, tout à fait. C'est très simple d'utilisation et avec une petite introduction chaque fois resituant. Bon. Il y a eu d'autre part trois autres grandes manifestations. À l'époque, grandes activités de l'Institut qui sont reprises dans cette exposition. D'une part, une série de missions en Espagne. L'Espagne était neutre, alors il fallait essayer de l'inspirer dans le bon sens. Et les membres de l'Institut, avec l'accord du gouvernement et la demande du gouvernement, s'en sont chargés par une série de missions. La constitution d'un comité franco-espagnol très largement formé du côté français par des membres de l'Institut. Et il y a en Espagne des académies équivalentes, hein, il y a des correspondances. Bon. C'est l'origine lointaine d'une de nos plus belles institutions actuellement, la Casa de Velázquez à Madrid, qui remonte au fond à cette période. Il y a eu d'autre part l'initiative prise par l'Institut pour reconstruire la bibliothèque de Louvain en Belgique, qui avait été brûlée lors de l'arrivée des Allemands en 1914, qui avait beaucoup ému l'opinion. Et il y avait évidemment une manifestation de soutien à la Belgique, on le comprend très bien, mais en même temps une manifestation de la valeur impérissable de la vie intellectuelle, des livres, des bibliothèques face au drame de la guerre. Alors ça, c'est également une mission très importante pour laquelle nous avons beaucoup d'archives. Et il y a eu également, c'est peut-être moins connu, mais c'est très important, organisé en 1917 à la demande du Quai d'Orsay, un comité d'études qui siégeait une fois par semaine de mars 17 à juin 1919, composé de membres de l'Institut, de professeurs à la Sorbonne, de professeurs à l'École des sciences politiques, l'ancêtre de Sciences Po, des historiens, des géographes, des politologues, qui se penchaient sur les frontières que l'on envisageait pour l'après-guerre. Frontières françaises avec la reprise de la Lorraine, mais également toutes les frontières des nouveaux pays créés par les traités de 1919 et 1920 en Europe centrale. Et c'est tout à fait passionnant, parce que vous avez des études économiques, géographiques, bien sûr, ethnographiques, linguistiques. On étudie dans ces régions d'enchevêtrement de populations extrêmement complexes tous les problèmes que posent ces futures frontières. Bien entendu, ce ne sont que des conseillers, des experts, c'est le gouvernement qui décide.
Mais souvent, c'est très important, parce que là, vous soulignez quand même le poids de l'Institut et des académiciens dans la diplomatie française de l'époque.
Ah ben, c'est très simplement, on ne dit pas think tank à l'époque, mais aujourd'hui, on dirait que c'est le think tank du gouvernement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est l'une des missions de l'Institut, pouvoir répondre à toute demande de recherche, d'enquête du gouvernement. Ça fait partie vraiment de nos missions. Et là, elle est pleinement réalisée. Ces procès-verbaux sont en cours de publication. Ils seront mis également sur le site. On peut déjà y trouver, sur ce site, le texte des rentrées solennelles. Chaque année, au mois d'octobre, tradition depuis la fondation de l'Institut, où chaque académie délègue un représentant. C'est tout à fait fascinant de lire ces discours. On aurait pu penser qu'ils auraient été un peu académiques, entre guillemets. Non, en fait, ils collent à l'actualité en général, mais avec un certain recul, certaines réflexions. Et c'est un ensemble tout à fait intéressant, passionnant, qu'on a mis en ligne, une véritable édition avec des annotations, avec une introduction, des chronologies pour s'y retrouver, etc. Là aussi, c'est très commode à utiliser, et je recommande aux auditeurs de Canal Academy de se reporter donc au site de l'Institut, où c'est très facilement accessible.
Entendu. Alors, avant, peut-on parler maintenant donc des représentations de la Grande Guerre et de son historiographie ? Alors, vous avez écrit dans un article où vous vous demandiez si 1918 marquait la fin de la Première Guerre mondiale, donc vous avez écrit, en modifiant un peu la citation la plus connue de Clausewitz, on pourrait dire que la paix, c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Alors, on devine ce que vous avez voulu dire, évidemment, mais pouvez-vous l'expliquer de manière bien définie pour les auditeurs de Canal Academy, et nous parler aussi de l'impression générale qui domine dans la population à la fin de la Grande Guerre. Donc précisons encore une fois pour les auditeurs qu'on ne peut pas encore parler d'histoire à cette époque, puisque nous sommes dans l'immédiateté, mais nous parlons déjà de mémoire malgré tout. Alors quelle est la situation ?
Alors c'est tout à fait intéressant, je dirais que les travaux de l'Institut, y compris les rentrées solennelles que je citais il y a une seconde, en sont un écho. Bon, 1918, au moment de l'armistice, c'est le soulagement. Évidemment, après 1 300 000 morts, un nombre considérable de blessés, de mutilés, bon, ça ne peut être que le soulagement, la joie. Et au fond, le grand slogan à partir de 1916-1917, on le sait, c'était la der des der. On faisait la guerre, malgré sa dureté, sa difficulté, dont les gens étaient parfaitement conscients de sa monstruosité. Ils savaient très bien. Mais il fallait tenir, seulement en espérant bien que, grâce à ça, ce serait la dernière. Et c'est la dernière idée. Puis en 1919, après...
Est-ce qu'à l'arrière, on connaissait la dureté de la guerre? Parce qu'il y a quand même eu une volonté du gouvernement, de la censure notamment, pour dissimuler quand même.
Alors, bien entendu, les chiffres de morts que j'ai cités ne sont pas communiqués au public avant 1919. Mais les veuves, à l'époque, portaient le grand deuil tout en noir pendant au moins 6 mois. Si vous êtes se promener dans les villes et les villages pour voir... Et les étrangers qui arrivaient en France étaient impressionnés. Dans les villages, les mères portaient chaque fois eux-mêmes à la famille le télégramme des armées annonçant la mort du fils ou du mari. Il y a en 1916, lors de la rentrée solennelle d'octobre 1916, une communication tout à fait intéressante d'un bar de Latour, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui prend un exemple d'un canton de France en guerre. Un canton du Morvan. Bon. Et il donne des chiffres, des pourcentages de tués, des chiffres de tués par village, par petite ville, par chef-lieu. C'est impressionnant. Alors, évidemment, c'est un canton, mais les gens peuvent parfaitement comprendre que c'est horrible. D'autre part, ils ont ces auditeurs, ils sont peut-être parisiens, mais enfin à l'époque, dans ces milieux-là, on avait toujours ces agences provinciales. Ils passaient 4 mois par an en province. Donc dans leur village, on leur disait, écoutez, un tel est mort, un tel, mon fils n'est pas revenu, etc. Donc les gens savaient confusément. Ça, c'est une réponse à votre question. Bon, alors, 1919, après la signature du traité de Versailles, le sentiment est nouveau. D'abord, l'armistice, 11 novembre 18, mais le traité de Versailles, c'est juin 19. Donc, il a fallu près d'un an de négociations très difficiles. Les Français n'ont pas du tout obtenu tout ce qu'ils pensaient pouvoir obtenir. Peut-être pas de façon raisonnable, d'ailleurs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais ce qui ressort des débats à l'Assemblée, c'est la déception. C'est-à-dire l'idée, on retrouve la question que vous posiez, que ce ne sera peut-être pas la dernière guerre, et en tout cas, que la paix n'est pas automatique. Il faudra vraiment y travailler pour la maintenir avec beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts. C'est également l'état d'esprit qui domine lors de la rentrée solennelle d'octobre 1919, qui exprime bien cette opinion générale, une forme de déception. Ce n'est pas ce qu'on avait espéré, c'est loin d'être clair. C'est loin d'être en fait terminé. Bien entendu, je ne parle pas du côté allemand, où assez vite, c'est l'idée au fond que la défaite n'était pas méritée, qu'en plus...
C'est un coup de poignard dans l'eau.
Exactement, voilà, c'est la faute des civils qui avaient lâché l'armée. Ça ne tient pas historiquement.
Non,
l'armée
était battue. Mais c'est l'idée que l'on...
C'est l'interprétation de l'ensemble de la plupart des Allemands à l'époque. Et puis 1919, c'est évidemment le refus du traité pour toute une série de raisons. Bon, je ne veux pas détailler, mais une fondamentale, le traité fait retomber la responsabilité de la guerre sur l'Allemagne.
Oui. Et intégrale. Alors, c'est-à-dire que même Clémenceau, qui n'était pas un germanophobe, va avoir jusqu'à la fin de sa vie, va jusqu'à son dernier jour, la conviction absolue que l'Allemagne est entièrement responsable de toute la guerre.
Tout à fait. Et comme vous avez tout à fait raison de dire qu'il était pas du tout l'un des plus excités.
Ah non, c'est pas Charles Maurras.
Pas du tout l'un des plus excités. Mais le traité, pour justifier la demande à l'Allemagne de réparation gigantesque, a écrit, même si c'était conçu plus comme une responsabilité de type responsabilité civile, responsable pour les avoir causé des dommages, etc., etc., mais ça a été évidemment interprété par tout le monde comme une responsabilité morale. Ça, plus d'autres clauses sur lesquelles je n'insiste pas maintenant, comme la livraison, qui n'a pas été faite finalement, sa première clause qui n'a pas été respectée, aux alliés, pour être jugé de 800 et quelques hauts responsables allemands, empereurs en tête. Ça, c'est pas... dès 1919, c'est pas à Nuremberg, c'est dès 1919. C'est la première clause qui n'a pas été respectée parce que l'empereur Guillaume II s'était réfugié aux Pays-Bas à la fin de la guerre. Les Pays-Bas refusaient de l'extrader. À partir du moment où les Pays-Bas refusaient d'extrader l'empereur, il était difficile de juger d'envoyer aux alliés. Alors, on les a jugés par une cour allemande, un haut tribunal allemand à Dresde. De façon, évidemment, plus douce que n'auraient fait les alliés. Enfin, toutes ces clauses qu'on a souvent oubliées maintenant, c'est pas ça que je rappelais l'histoire des 800 criminels de guerre, étaient qualifiés de criminels de guerre, n'est-ce pas, ont suscité évidemment un climat quand même qui était beaucoup plus nationaliste qu'aujourd'hui en Allemagne, une réaction extrêmement négative. Donc, désir de revanche chez les Allemands, également chez les Hongrois, insatisfaction chez les Italiens qui parlent de la victoire mutilée, parce qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils souhaitaient. Bon, chez les Français, déception, c'est compliqué, le sentiment ne sera peut-être pas la dernière d'air quand même, c'est inquiétant. Tout ça fait qu'il y a un désenchantement que l'on retrouve bien une fois de plus dans les travaux de l'Institut, très nettement. On vous envoie au recueil des rentrées solennelles.
D'accord. Est-ce qu'on peut évoquer la figure du poilu? Parce que à l'époque, le poilu, c'est un piou-piou, pour parler vulgairement subir. C'est un gamin de 20 ans, littéralement. C'est pas du tout Lazare Ponticelli. C'est pas, donc, qui était le dernier des poilus, hein, pour les auditeurs de Canal Académie. On n'a pas du tout la figure un peu du vieillard vénérable, de l'ancien combattant, quoi. C'est un ancien combattant de 20 ans. Quelle est l'image que l'on se fait du poilu, alors ?
Bien, il évolue pendant la guerre. Les mots que vous avez utilisés, au début de la guerre, c'est notre cher petit piou-piou. C'est les chansons d'avant-guerre un peu militaristes, comme ça, enfin bon, la revue, sentiment, enfin bon, ça, on a connu ça. Et puis, ça, c'est quand on pense que le conflit sera court. Personne, sauf quelques très rares... militaire plus avisé, ben on imagine que la guerre durera 5 ans. Non, on pense que ça durera l'été, et puis qu'on renégociera une nouvelle paix européenne après. Et quand le piou-piou a son uniforme tout à fait défraîchi en lambeaux, et se trouve fin de l'année 1914 vivre dans les tranchées, et comprend que ça va durer longtemps, avec tous les problèmes de vie quotidienne que vous pouvez imaginer, la seule solution, c'est de laisser pousser ces appendices spileux, d'où l'expression très parlante de poilu. Effectivement, les soldats avaient peut-être une moustache à la mode à l'époque, mais ils étaient imberbes. Bon, les Français étaient imberbes à l'époque, sauf peut-être une moustache. Bon, mais les cheveux coupés très courts. Là, ils sont cheveux coupés très courts, parce que c'est pas vivable autrement, mais la barbe est là. Bon. Et d'où l'expression de poilu qui est très parlante, très populaire, mais qui s'impose à partir de 1915-1916. Le vocabulaire change. Le mot apparaît à partir de ce moment-là. Et il exprime à la fois la rusticité, dirait-on aujourd'hui, parce que la plupart d'entre eux, enfin une forte majorité d'entre eux, sont quand même des paysans habitués à vivre à la dure, comme on dirait familièrement. La rusticité, la ténacité est quand même une forme d'inconfort. En plus, il y a les à côté, n'est-ce pas, la hantise. Autant que les Allemands, c'est la vermine qui rend la vie quotidienne
épouvantable. Les poux, les rats.
Les poux, les rats, etc.
Les journaux tranchés, d'ailleurs, en parlent beaucoup de cela.
Bien entendu, les journaux tranchés sont toujours fascinants. Et certains sont également accessibles à l'arrière. N'est-ce pas,
Ah, ils passent à l'arrière.
Oui. Il y a un journal, par exemple, de...
Le Crapouillot, non,
de, non. Ça, je ne peux pas vous donner une liste complète, mais j'ai découvert récemment la petite ville de Saint-Émilion, qui a organisé toute une série de manifestations tout à fait passionnantes, comme beaucoup de villes en France, mais il m'arrive de faire un tour de France pour des conférences, etc. Ils ont retrouvé un journal de poilu saint-émilionnais, organisé par le curé de la paroisse à l'époque, qui s'est retrouvé en fait aumônier militaire, bon, pour ses anciens paroissiens, et ça, c'était diffusé également à des gens de Saint-Émilion, n'est-ce pas, bon, qui pouvaient la voir, et donc les contacts entre l'avant et l'arrière, si j'ose dire, sont quand même, sans compter les lettres des soldats, elles ne sont pas retenues, elles sont lues par l'administration militaire, mais elles ne sont pas censurées, elles sont, sauf si elles dévoilent le secret militaire.
Bon,
mais la correspondance, normalement, est transmise. Les soldats sont pudiques, ils ne décrivent pas tout, ça n'est pas agréable pour les familles. Mais les gens, quand même, se rendent compte progressivement à peu près de ce que c'est. Et c'est assez réaliste. On a édité à Saint-Émilion ce journal du poilu saint-émilionnais, et mon Dieu, il donne une image assez réaliste de la guerre. Il faut pas aller, même si un peu, bon, euphémiser, disons, mais il faut pas aller dans l'idée que y a vraiment une ignorance totale, ça c'est faux. Hein.
D'accord.
Tout à fait faux.
D'autant plus que on peut évoquer peut-être aussi le cas des permissionnaires, non ? Je suppose que quand le permissionnaire rentre à l'arrière, il doit un peu quand même révéler.
Puis d'abord, la famille le voit arriver.
Oui, forcément. Hein, oui,
physiquement transformé. Bon. Oui. Et puis, il parle même. Probablement, l'époque est plus retenue que la nôtre, n'est-ce pas ? C'est moins exhibitionniste, peut-être, je ne sais pas comment dire. Mais enfin, il est évident, vous avez parfaitement raison, que les gens sont au courant, bon, ils savent, en gros. Bon.
D'accord. Est-ce que l'on peut également parler donc, des causes du conflit ? Là, c'est une question, pour le coup, d'historiographie. Est-ce que vous pensez que le conflit était évitable ou que l'engrenage des pactes, des engagements réciproques le rendait inévitable ? C'est une vraie question parce que on a la notion de libre arbitre humain, là, pour le coup, qui intervient. Est-ce qu'on pouvait arrêter la guerre jusqu'au dernier moment ou est-ce qu'au contraire, elle était embarquée et
écoutez, c'est une question qui agite les historiens depuis les années 20, en fait, et il faudrait plusieurs heures de Canal Academy pour l'explorer. Alors, actuellement, nous sommes arrivés avec les travaux qui ont été justement publiés à l'occasion de ces anniversaires, ou qui sont dans les tuyaux, disons, à la conclusion suivante. Il faut voir ça sur deux plans. Alors, la crise immédiate, c'est à partir du 28 juin, il y a une mécanique qui se met en place. Il y avait eu bien d'autres crises européennes de ce genre depuis la guerre franco-prussienne de 1870 qui n'avait pas abouti à une guerre mondiale. On aurait pu, par les mêmes moyens, qui étaient des systèmes de négociation diplomatique dès qu'il y avait une crise, et de compensation, d'équilibre, d'avertissement donné à chaque puissance, à ses alliés. Le principe, jusqu'en 1914, quand il y avait une crise européenne, et puisqu'il y avait deux blocs d'alliance face à face, allemand-autrichien d'un côté, français, russe, les Anglais de l'autre, chacun disait à son partenaire, écoute, on se calme, ça ne touche quand même pas tes intérêts vitaux, on ne va pas faire une guerre comme ça. Ça ne fonctionne pas en 1914. Mais quand on étudie les choses de très près, certains sont prêts, en particulier les Autrichiens. Les Allemands sont déjà un peu plus prudents. Les Russes, comme les Autrichiens, prêts à prendre la responsabilité d'un conflit limité autour de la question serbe. Bon, guerre européenne générale, ça, les gens sont beaucoup plus hésitants. Ils pensent pouvoir l'éviter et que si jamais on ne peut pas l'éviter, il faudra quand même y aller parce que la situation risquerait d'être encore plus difficile quelques années après. Mais ce qui a été, à mon avis, qui n'est pas partagé par tout le monde, déterminant dans cette mécanique finale, c'est l'hésitation des Britanniques à prendre clairement position. Lors d'une crise similaire en 1911, à propos du Maroc, Londres avait fait très vite savoir qu'ils interviendraient si l'Allemagne agissait contre la France. Là, ils attendent, à mon avis, 48 heures de trop. On peut démontrer que s'ils avaient pris position fermement plus tôt, Berlin aurait calé. Voilà. Alors, les causes profondes, ça, il y avait quand même l'accumulation de matériaux combustibles très inflammables, pas tellement d'ordre économique, c'est pas vraiment la cause. Je dirais d'ordre culturel,
ethnique,
et politique. Culturel avant tout, parce que, et politique. L'Europe du 19e siècle, on savait très bien que les populations d'origine, de langues différentes, coexistent dans le même empire. C'est moins bien admis au début du 20e siècle. D'où l'attentat de Sarajevo, c'est vraiment l'attentat de ce style-là. Bon, d'autre part, on aurait parlé même à Bismarck, bon, un Allemand du Prussien du 19e siècle, du germanisme face au slavisme. Des mouvements comme le panslavisme, le pan-germanisme n'existent pas avant la fin du 19e siècle. Et les gens restent dans une Europe civilisée. C'est très mauvais signe quand en 1913, au Reichstag à Berlin, le chancelier Bethmann-Hollweg, qui n'était pas un excité pourtant, dit le grand combat de notre temps, c'est le Deutschtum, enfin, le germanisme, face au Slaventum, le slavisme. Alors ça, c'est très mauvais. L'Europe est très malade. C'est pour ça que, quand même, je l'ai dit, les matériaux d'explosion s'accumulaient. Donc, une grande guerre était évitable en 1914, mais on aurait eu de nouvelles alertes, incontestablement.
D'accord. À la fin de la guerre, on note justement quand même des antagonismes entre les nationalismes, pour le coup, là, puisqu'ils ont été rendus, d'un certain point de vue, légitimes par les conflits, et une germanophobie quand même assez galopante en France. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'une francophobie existe en face ? Et comment va s'opérer la réconciliation? Est-ce que, en gros, la réconciliation ne s'opère qu'avec la poignée de main et le mou de colle François Mitterrand, ou est-ce que des choses s'amorcent au fil du temps?
Bon, alors, il y a eu plusieurs tentatives de réconciliation. Il y en a eu dès les années 20. Mmh. Ce sont les décades de Pontigny qui regroupent des écrivains, des intellectuels des deux côtés vers 1925. Il y a eu également, dans ces années-là, des accords politiques, encore prudents, mais qui visent à l'accord de Locarno, 1925, les projets européens de Briand, 1930, qui visent à essayer de reconstruire un ensemble, disons, politique international européen, stabilisé, et permettant de régler certains problèmes dont on était conscient par la négociation prudente, progressive. Bon, ça échoue. Pour une série de raisons, d'une part la crise économique de 1930 et l'année suivante a rebattu toutes les cartes, et bien sûr ça a été aussi en Allemagne, mais également en Italie, également en Hongrie et d'autres pays, le triomphe des revanchards en quelque sorte, et en plus des idéologies totalitaires, fascisme italien, national-socialisme allemand, et l'Union soviétique, il ne faut pas oublier, qui a joué un rôle de bout de feu dans toutes ces crises d'après 1919. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, où c'est encore pire si j'ose dire que la première, il y a eu très tôt des tentatives de réconciliation, plus complexes qu'on ne le dit parfois. Il y a une sorte de légende dorée des réconciliations franco-allemandes, ça a été plus complexe. La déclaration Schuman, Robert Schuman du 9 mai 1950, c'est incontestablement une date. Parce qu'on donnait à tout le monde un objectif européen, au-dessus des problèmes nationaux qui subsistaient. Enfin, il y avait quand même un étage supérieur dont on prenait conscience. Dans le cas de la population française, ça je l'ai vécu, je suis absolument formel, la réconciliation a commencé vraiment, y compris dans ses manifestations dans différents domaines. Les affaires économiques, les voyages, les mariages mixtes franco-allemands. Il y a des statistiques très intéressantes là-dessus. Les échanges d'étudiants, etc., ça commençait au début des années 1960. Là, je suis très précis, peut-être que tout le monde ne partagera pas cet avis, mais là, je suis très ferme, quand le général de Gaulle a décidé officiellement, avec le chancelier Adenauer, la réconciliation franco-allemande. Alors là, le général de Gaulle avait fait la Première Guerre mondiale, la deuxième, on connaît son rôle. À partir du moment où il disait qu'il faut se réconcilier avec l'Allemagne, il était suivi, c'était légitime, on y allait. Et même, je dirais, du côté allemand, d'une certaine façon. Bon. Voilà, alors donc c'est toute une chronologie, n'est-ce pas? Il a fallu, en fait, pratiquement une génération. C'est pas étonnant.
Oui, c'est parfaitement logique, vu l'ampleur des dégâts. Alors, en parlant de dégâts, justement, donc, la mémoire, à nouveau, des Français va être marquée, mémoire de cette Première Guerre mondiale, donc, va être marquée, notamment par l'apparition de signes matériels comme les monuments aux morts, comme les défilés d'anciens combattants, comme les ligues éventuellement même qui vont avoir un rôle, et les ligues d'anciens combattants. Nous sommes là dans la mémoire toujours, même si ces éléments vont avoir un rôle, vont devenir un matériau historique pour les historiens. Et justement, quand commence la véritable démarche historique pour étudier la Première Guerre mondiale? Quand sort-on de la mémoire pour vraiment entrer dans une première démarche historique?
Bon, il faut apporter à votre question une réponse nuancée. Des historiens, à commencer par Pierre Renouvin, qui avait été blessé, mutilé, perdu un bras au chemin des Dames en 1917, mais qui avait été chargé de mettre en place par le gouvernement après la guerre, par Poincaré lui-même, qui suivait ça avec beaucoup d'intérêt, la bibliothèque d'histoire de la guerre, qui est l'ancêtre de l'actuelle bibliothèque de documentation internationale contemporaine, qui est encore aujourd'hui au monde, la bibliothèque et les fonds d'archives, si vous voulez, les pots d'archives le plus important pour la guerre de 14, encore aujourd'hui. Bon. Et il a fait œuvre d'historien dès 1927, son premier livre, la guerre de 14. Il y a eu, dès les années 30, toute une série d'ouvrages.
Excusez-moi, sur quelle source travaille-t-il?
Les archives.
Déjà?
Oui, parce que...
Déjà accessible.
Enfin, accessible, entendons-nous, sur dérogation, bien entendu.
Ah oui, très bien.
C'est-à-dire que on peut toujours demander à consulter des archives avant le délai légal. lui, il a eu les dérogations nécessaires, parce qu'il était chargé en fait d'une mission gouvernementale.
D'accord.
Bon. Mais il a fait un travail tout à fait scientifique. Et parallèlement, on commence la publication dans tous les pays, hein, pas seulement en France, de recueils de documents diplomatiques d'avant 14 pour expliquer comment on était arrivé là. Disons que le travail historien, il a porté d'abord sur les origines de la guerre de 14.
Oui.
Bon. Et puis, il a porté sur la guerre elle-même, là, en partie pour la question des archives, parce qu'il y avait une césure après 1914. Les archives 14-18 n'ont été ouvertes en France officiellement qu'en 68.
Oui.
Bon, en Allemagne, elles ont été ouvertes plus tôt, parce que la guerre, Deuxième Guerre mondiale, a amené à leur ouverture plus tôt. Mais enfin, il y a eu un décalage. Les premiers travaux allemands sur la guerre de 14, proprement dite, sont parus en 60-61. 59-60-61, oui. Ces années-là. En France, un peu après. Sur des historiens comme Guy Pedroncini, par exemple, le premier, et puis Jean-Jacques Becker également,
oui,
bon, génération-là, bon, qui est encore avec nous. Et là, on passe vraiment pour l'ensemble de la guerre, et pas simplement pour les origines du conflit, à l'histoire, qui ensuite s'est développée sur différentes orientations. Ça continue, ça,
oui.
Aujourd'hui, c'est work in progress, comme on dit, c'est pas fini, loin de là. Hein,
oui. Avec les... On commence les premiers travaux, donc c'est, comme vous le disiez...
Les premiers travaux sur les origines de la guerre, c'est dès les années 20-30. Les opérations militaires, alors il y a des travaux par le service historique de l'armée de terre à Vincennes, qui publie une énorme collection des armées françaises dans la Grande Guerre, avec des documents, c'est toujours très utile. Hein, bon,
oui.
Bien. Mais on est revenu là-dessus, alors à partir d'archives là, totalement disponibles, dans les années 60. Parce que là, vraiment,
d'accord,
c'était accessible.
Ouais.
De nouveau, Pedroncini, Pétain, général en chef.
Ouais. Pétain, dont on a retrouvé récemment d'ailleurs un livre où il raconte le détail de ses opérations militaires.
Oui, tout à fait, édité, tout à fait. Tout à fait.
Sans doute très intéressant pour l'historien aussi.
Voilà, mais là, il faut chaque fois confronter avec les archives.
Bien sûr, oui.
Donc, il y a eu ensuite, bien entendu, progressivement, des publications de mémoires, de journaux, qui ont contribué à donner aux historiens du matériau. Mmh. Enfin, la chronologie, moi je vous dis, fin années 20, années 30, la discussion scientifique sur les origines de la guerre de 14, aujourd'hui on repose les mêmes problèmes un peu différents, mais enfin on parle bien de la même chose, alors, c'est déjà très scientifique. La mémoire c'est autre chose, je vous parle
bien
de science.
Bon.
Ensuite, la guerre proprement dite, sous des aspects militaires, années 60, sous des aspects humains, économiques, etc., années 70-80, sous des aspects culturels, mémoire, c'est un peu l'historien de la Grande Guerre à Péronne, ça, voyez-vous,
oui, oui.
Ça c'est 80-90.
Dans les années 90, on commence aussi à parler des victimes, j'ai l'impression, c'est-à-dire on parle du blessé, de la gueule cassée, du civil, du mutin aussi, la figure,
oui,
du mutin.
Oui, alors on met
une vraie révolution
parfaitement raison, parce que jusque-là, on met l'accent sur le combattant,
oui,
ou l'arrière, bon, mais le combattant comme victime, au sens le plus général, y compris les mutins, les fusillés, oui, etc., victimes, terme générique, là, c'est vraiment les années 90. Avec
comment expliquer ça,
perception. Ah oui. Écoutez, il y a différentes façons de voir les choses, soit un approfondissement, sujet après sujet, on approfondit, on est obligé de déblayer d'abord l'essentiel, ensuite, hein. Et peut-être, explication plus profonde, une approche culturelle que l'on trouve, psychologique, que l'on trouve dans l'ensemble de la société, pas seulement française d'ailleurs, l'intérêt accru pour les victimes, et peut-être intérêt diminué pour les acteurs eux-mêmes,
oui,
pour dire les choses brutalement.
Oui, oui.
Bon,
un intérêt aussi peut-être pour les cas individuels, non ? Et une perte d'intérêt pour les grandes opérations surplombantes, les choses un peu...
Alors, c'est, je le dirais peut-être autrement, mais nous sommes bien d'accord, c'est un intérêt pour ce qu'on appelle l'histoire d'en bas,
oui,
l'histoire vue du combattant, ce qui est d'un certain point de vue légitime, mais qui en même temps pose un problème, parce que le combattant souffre,
oui,
mais décide pas. Alors,
oui,
si on veut comprendre quelque chose, d'abord, déclenchement du conflit, peut-être très secret, ce sont des diplomates et des hommes politiques entre eux, des militaires entre eux, ça, c'est quelques dizaines de personnes, pas
oui,
plus. C'est quand même intéressant de savoir comment ça s'est passé, parce que les autres, ils sont
oui,
même pas spectateurs.
Ils subissent.
Les
oui,
yeux ronds, les bras ballants, puis ils sont lancés dans la guerre mondiale. Bon. Et puis ensuite, pendant la guerre, le soldat se rend compte d'un certain nombre de choses, mais il ne peut pas le conceptualiser, ou à peine, il ne peut pas surtout influencer le commandement, donc il faut quand même étudier le commandement. Et la question des buts de guerre, ne seront pas réalisés, mais enfin, ils détermineront quand même les traités de paix, c'est-à-dire encore des problèmes européens dont nous ne sommes pas sortis. L'Ukraine aujourd'hui, c'est des questions qui n'ont pas été réglées en 1919. Le Caucase, ce sont des questions qui n'ont pas été réglées en 1919. Le Moyen-Orient, ce qui explose, sont les accords Sykes-Picot de 1916 et les traités de Sèvres de 1920. C'est ça qui explose. Toutes les frontières dessinées à ce moment-là sont remises en cause. Il faut bien étudier les processus de décision. On ne peut pas uniquement voir les combattants. Il faut un équilibre, n'est-ce pas ? Donc, par moment, on est peut-être en train de sortir. Voilà.
Alors, nous entrons justement là dans une grande période de commémoration, littéralement jusqu'en 2018, fin 2018. Donc, quelle est la vision actuelle de l'historiographie ? Quels sont les travaux menés par les universités en ce moment ? Quelle est, à votre avis, quelle est la mémoire actuelle de la Grande Guerre dans le public, donc dans le grand public, non pas dans le public des chercheurs ? Dernière question, ensuite je vous laisse répondre. Quels sont les champs qui, selon vous, restent à aborder ? Est-ce qu'il reste des tabous, par exemple, historiques ? Est-ce qu'il reste des champs à explorer ?
Il n'y a pas de tabous,
non.
Mais il y a des zones d'intérêt plus ou moins fortes. Je dirais ça comme ça, mais il n'y a plus de tabous. Alors, pour reprendre votre question, je pense qu'il y a actuellement... D'abord, il faut distinguer par pays, parce que... L'intérêt est moins net en Allemagne qu'ici. Le livre de Christopher Clark, Les Somnambules, c'est très très bien vendu. Ça a été très bien fait, il a été très bien traduit. L'auteur, qui parle allemand parfaitement, a pu assurer par des séries de tables rondes, d'articles, d'interviews, etc., un service après-vente très efficace. Et puis le livre tord le cou définitivement au mythe de la responsabilité unique de l'Allemagne dans la guerre. Donc, il est arrivé pour les Allemands, disons-le entre nous, bien me comprendre, pas une sorte de libération morale. Mais en dehors de ça, c'est pas du tout le même écho. Dans les Balkans, c'est toujours très chaud. On prévoyait un grand colloque international à Sarajevo. Il n'a pas pu se tenir, finalement, parce que les gens se sont battus avant même d'arriver à Sarajevo. C'était pas de bonne nouvelle.
Les gens, pas des chercheurs, quand même.
Si, on n'a pas pu tenir un colloque d'historiens à Sarajevo, qui était prévu, pourtant. Et préparé depuis au moins un an. Et il a échoué, parce que finalement, ça n'a pas réussi. C'est pour montrer que, quand même... Non, mais là, dans les Balkans, évidemment, la situation actuelle, vous comprenez bien
évidemment,
qu'elle trouve ses racines. Alors, en France, je m'arrêterai pour le moment au cas français, parce que sans ça, c'est énorme. En France, je suis très frappé par une sorte de dichotomie entre ce que j'appellerais les médias, les milieux gouvernementaux, etc., qui sont un peu dans le sens commémoration victimaire, pour dire les choses très brutalement. Et puis, les réactions, la population, j'ai participé à des manifestations à Nancy, en Savoie, dans le Bordelais, pour le moment, pour ne citer que ça. En Touraine, c'est à peu près l'équivalent, d'ailleurs. Et en fait, les Français ont un intérêt très personnel. Les familles, savoir, la plupart ont des ancêtres qui sont battus. Alors, c'est très intéressant. Les gens retrouvent des photos, des journaux de combattants qui étaient restés dans les greniers familiaux, poussiéreux, etc., mais que les gens ressortent. Il y a des tas de petites expositions locales.
Mais la Bibliothèque nationale de France, d'ailleurs,
a lancé une collecte de ce genre de souvenirs, qui a d'ailleurs donné des résultats. Mais indépendamment même de ça, on voit, je pourrais vous le citer, je l'ai vu chaque fois, en Savoie, trois endroits différents en Savoie, des municipalités, dont les habitants rassemblent les photos, font des expositions de façon purement bénévole, mais très bien faite, tout à fait intéressante. Il y a des tas de choses, enfin des correspondances d'entreprises qui reçoivent des commandes pour l'armée, ça. C'est des photos, des lettres. Et ça, c'est l'aspect, disons, nos ancêtres ont été là, voilà ce qu'on a retrouvé, on prend conscience. Un intérêt également plus savant, comment est-ce qu'on est arrivé là ? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Et donc les conférences qui portent sur ce genre de questions, ainsi ensuite que les buts de guerre et puis les conséquences après 1919, sont très suivies. J'étais frappé par le fait que l'auditoire c'est déjà beaucoup de choses. Il y a quand même pas mal de choses qui ont percolé, même si l'enseignement aujourd'hui ne porte plus tellement sur ces questions. Bon. Et un intérêt cultivé, informé. Bon. Et donc, c'est un peu décalé. C'est d'une part très familial, c'est normal, ou très local, et en même temps assez historique. Bon. Pas absolument certain que la vision officielle correspond exactement à ce que les Français attendent en ce moment, dans tous les cas. Il y a des recouvrements, évidemment, oui. Mais ce n'est pas totalement coexistant. Bon, ça ne se recouvre pas parfaitement. Voilà. Alors, sur le plan des chantiers qui restent à explorer...
Et notamment ceux de l'Institut, peut-être, non pour les... Que prépare l'Institut pour les 4 années à venir?
Bah, écoutez, pour le moment, on sort d'en prendre, si vous me pardonnez, en 1914. Ça a été un travail considérable. Tout le monde s'est impliqué. Il n'y a pas de crédits, comme on dit, dans ces mises en ligne. Enfin, il faudrait citer pratiquement toute l'administration de l'Institut, parce qu'il y a également la communication, il y a bien entendu la bibliothèque, les conservateurs, il y a les archives. Enfin, je pense que également à la Fondation Thiers, plus quelques personnes qui ont eu une mission spécifique, on aurait facilement 25-30 personnes qui ont très directement collaboré à ça. Votre serviteur compris, d'ailleurs. Bon. Et notre chancelier qui a rédigé des préfaces, des introductions, qui a veillé à la... Bon, des académiciens, puisque les rentrées solennelles impliquent pas mal de monde. Il y a des délégués, porte-parole, mais enfin derrière, il y a des... Tout ça est choisi, discuté. Mmh. Bon, donc quand même une application assez large. Alors, pour la suite, on verra. Je ne vous cache pas que je préfère, maintenant que l'affaire a été lancée pour 1914, que l'on s'arrête à des problèmes d'intérêt historique réel, donc correspondant au nouveau champ à explorer, plutôt que le mémoriel à répétition. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, dans certaines régions d'Europe, il fait, à mon avis, plus de mal que de bien, pour dire les choses simplement. Alors, les champs à explorer. Bon, d'abord, en histoire, il faut explorer des champs nouveaux, mais il ne faut jamais abandonner l'exploration ou le retour aux champs anciens. Par exemple, les buts de guerre, on croit tout savoir. On est loin de tout savoir, parce qu'il y a des masses énormes d'archives, de points de vue, de questions à poser, plus même que les archives, ce qui concerne les questions qu'on leur pose. Pour avoir 100 tonnes d'archives. Oui. Si vous ne savez pas quoi leur demander, voilà, vous savez, vous regarderont d'un œil assez bovin. Hein. Bon. Donc il faut savoir comment les interroger, quelles questions leur poser. Et alors, les buts de guerre, immense question. Énorme question également, comment, qu'est-ce qui fait marcher les combattants, propres et aux figurés? Bon, c'est la contrainte. Bon, bien, ponctuellement, d'accord, les gendarmes sont là, bon. L'officier qui remet dans le rang, parfois brutalement, bon, bien sûr, évidemment. Ça, ceux qui ont fait leur service militaire, les générations anciennes, savent que parfois un bon coup de gueule remet tout le monde d'aplomb. C'est possible.
La camaraderie, mais, peut-être aussi, non?
Attendez, j'y venais. Oui. Bon. seulement, ça n'explique pas tout pour un conflit pareil. Et d'autre part, il y a des moments où tout ça, il n'en suffit pas. Alors, il y a deux choses. Trois éléments sont entrés en ligne de compte, je les donne un peu dans le désordre. D'abord, ce n'est pas l'époque actuelle, c'est encore une époque où la notion de sacrifice, qu'elle soit comprise dans un sens chrétien ou post-chrétien, parce que vous avez également des athées ou des gens très détachés de la religion, mais il est évident que sans la notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire le sacrifice de sa vie pour une cause supérieure, disons une chose comme ça, très profondément ancrée, on n'aurait pas pu vivre ça. Autre élément très important dans le cas français, c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre et qui a envahi. À mon avis, si les Français s'étaient retrouvés en Allemagne, je ne pense pas qu'ils auraient fait la guerre indéfiniment. Mais les autres envahissent le territoire. Vous avez affaire à des paysans qui voient les vergers démolis, le terrain bouleversé, ravagé, les usines démolies, et ils disent « ça, on ne va pas accepter ça ».
Et puis on est la ligne de front, surtout. Et c'est-à-dire puis, que si on cède, derrière, c'est les parents,
en plus,
la femme...
Le front est clairement défini. Oui. Non, on défend, on sait ce qu'on défend et on veut le défendre. Puis troisième point, et ça, un académicien, par la suite, Maurice Genevoix, l'a montré dans une série d'ouvrages qu'on a recueillis récemment sous le titre « Ceux de 14 », le titre de l'un des ouvrages de « Ceux de 14 », probablement le meilleur récit, le meilleur témoignage, à mes yeux, le meilleur... et qui montre très exactement ce que vous venez de dire, c'est le, ben, on lâche pas le copain. C'est une sorte de dynamique de groupe. On ne cale pas.
Oui, c'est-à-dire que là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la guerre vue par le petit bout, oui. Vue du terrain. On ne pense pas aux grandes opérations, on se dit je ne lâche pas le mètre carré
oui,
que je défends.
Attendez, parce qu'il y a mon je complète, malgré tout, alors, ça n'exclut pas, parce que grâce au contrôle postal qui a été étudié, il y a eu des thèses là-dessus, donc une thèse sous ma direction d'ailleurs par M. François Lagrange, qui s'occupe du service pédagogique du musée de l'armée. Là, vous voyez, on est bien dans les mêmes. Bon, c'est ça, le musée de l'armée qui a beaucoup contribué évidemment à tout ça. Et là, c'est très net, les combattants ont quand même une idée des grands objectifs. C'est la défense, disons, du pays. C'est la volonté d'établir ensuite un système de sécurité qui, bon, quand même, assurera la paix. On va remettre ça avant. Et puis, d'autre part, c'est une vision républicaine, hein, parce que c'est l'Allemagne impériale, c'est l'Allemagne des hobereaux.
Vous parlez d'officiers
ou non, de combattants. De combattants. Ah, oui. On lit les lettres des combattants. Ah, oui. Et c'est pas exprimé comme j'ai en train de le faire, ouais, on voit bien quand même.
L'esprit
c'est,
est là.
Ouais. C'est le Kaiser, c'est pas bon. C'est, ça rappelle la France d'Ancien Régime. Vous voyez, il y a cet aspect. Puis on se rend bien compte que l'armée allemande n'est pas organisée comme la nôtre. Il y a un corps d'officiers qui est encore très nobiliaire. Oui, les Junkers prussiens, bien, c'est une notion plus ou moins vague, mais enfin, ça existe. Et puis, d'autre part, il y a également la notion qu'il faudra arriver à établir un système international de paix après la guerre, des garanties. C'est vague. Mais enfin, l'idée de la SDN, quand elle arrive avec Wilson, la connaissance des Français en 1918, elle est acclamée. Ça, c'est que gens ont peut-être des illusions, mais comprennent très bien. Et d'autre part, bon, l'opinion publique, c'est lui que je vous dis, on peut en dire ce qu'on veut, mais il y a des élections. Ça ne trompe pas. Les élections de mai-juin 1914 portent à la Chambre une majorité qu'on peut qualifier de pacifiste. C'est-à-dire qu'ils sont même réticents à l'égard de l'alliance franco-russe. Ils trouvent que la France a été imprudente face à l'Allemagne. Enfin, les nouveaux députés, si vous voulez. Bon. Majoritairement pacifiste. 1919, mois de novembre 1919, élection au scrutin proportionnel pour la première fois depuis longtemps. On n'a pas le problème, c'est vraiment très représentatif. Et vote pour qui? Pour les gens qui disent qu'il faut absolument imposer l'exécution du traité de Versailles. Le vote des Français, l'inverse de celui de 14, majoritairement droite, patriote, disons, nationaliste, patriote, bon, très méfiant à l'égard de la paix universelle, c'est une notion considérée comme illusoire. Donc, à la fin de la guerre, lorsqu'ils peuvent s'exprimer par leur vote, les Français ratifient quand même la politique menée par Poincaré et Clémenceau, quelles que soient les différences entre les deux hommes. Qu'est-ce que vous voulez, ça, c'est un sondage en vraie grandeur. Ça changera par la suite, autour de 23-24, pour des raisons dans lesquelles on ne va pas entrer maintenant, mais il ne faut pas se tromper. 1919, l'humeur est quand même assez, encore guerre de 14, incontestablement, mais menée durement, mais justement, il fallait le faire, voilà. Je résume brutalement, mais je crois que c'est ça quand même.
Merci beaucoup. Sur ces propos donc, de Georges-Henri Soutou, nous allons nous quitter, chers auditeurs de Canal Académie. L'émission est terminée. Je vous rappelle donc que nous recevions Georges-Henri Soutou de l'Académie des sciences morales et politiques pour évoquer la mémoire et l'histoire de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez retrouver de nombreux éléments de réflexion et des expositions numériques donc, sur le site internet de l'Institut pardon, en tapant soit Institut Grande Guerre et vous dans un moteur de recherche et vous tomberez très facilement dessus, soit en allant directement sur le site suivant, donc http://, c'est-à-dire les barres obliques, 14-18.institut-2-france.fr. Merci beaucoup, merci monsieur Soutou.
Merci à vous.
Et à une prochaine fois. Au revoir, chers auditeurs. Thank you.